Les passions de Camille avec Camille Chaille.
Bonjour à tous et à toutes, ici Camille Chaille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Vermette, qui est coordonnatrice pour le programme Jouer prudemment à l'Association des amputés de guerre. Et je reçois Samuel Larouche, qui est athlète paralympique en course en fauteuil roulant, mais il fait aussi beaucoup de choses, tout comme Isabelle Vermette. Alors, restez avec nous pour en apprendre davantage sur mes invités. C'est tout de suite à Les passions de Camille. Ma première invitée s'appelle Isabelle Vermette. Bonjour Isabelle.
Bonjour Camille.
Comment tu vas?
J'espère bien.
Oui, ça s'entend.
Oui, toujours.
Isabelle, toi tu travailles à l'Association des amputés de guerre. Tu n'es pas la première invitée qui travaille à l'association que je reçois à mon émission, mais pour moi c'est un incontournable. Alors je te connais depuis toujours, hein, si je peux dire. Parce que tu travailles à l'association depuis à peu près 20 ans?
Oui, c'est ça. J'ai été inscrite, hein, j'avais seulement 6 ans. Aujourd'hui, je dois dire que je suis plus âgée que toi, que mon parcours à l'association est une famille pour moi plus qu'un employeur.
Oui.
J'ai eu la chance, là, c'est ça, là, plus de 20 ans, là, d'obtenir un poste avec eux et je suis toujours heureuse de faire partie de l'équipe.
C'est tellement agréable à entendre, ça me fait plaisir. Puis d'ailleurs, je veux dire, toi, tu as été toujours pour moi autant un exemple qu'un modèle parce que tu es né sans ta main gauche.
Exactement. Je suis née sans main gauche, donc j'ai appris à fonctionner de cette façon-là. Souvent, quand je vais rencontrer les élèves dans les écoles, ils me demandent « Tu rêverais-tu d'avoir deux mains? »
Oui.
Puis ils sont impressionnés de m'entendre dire que non. Parce que ça fait partie de moi.
De ne pas avoir ta main, donc c'est intéressant de dire que ça fait partie de nous, quelque chose qu'on n'a pas.
Exactement. Puis c'est dur à imaginer pour les autres, parce que eux vivent avec une main en moins, c'est la fin du monde.
C'est vrai.
Fait que c'est un petit peu ça, puis je suis flattée que tu dises que j'ai été un petit peu ton mentor parce qu'au sein de l'association, c'est ça, hein, c'est les amputés qui s'entraident et le fait que je suis plus âgée que toi, ben ça m'a permis d'être un petit peu ton modèle, puis c'est ce que je prône tout au long de ma vie, puis tout au long de mon emploi, c'est ça que je fais. Je suis le modèle pour les autres.
Mais complètement. Et comme tu dis, c'est un peu le... Ben, je dirais que l'Association des amputés de guerre a plusieurs devises, mais celle de l'entraide, elle n'a pas de prix parce que tu vois, ce que toi, tu as fait avec moi, ben évidemment, moi, je le fais à mon tour aussi avec des plus jeunes, avec d'autres. Donc, c'est une roue sans fin et c'est la plus belle des nouvelles, que ce soit une histoire sans fin, parce qu'on aura toujours besoin de s'aider et de s'appuyer les uns les autres. Et souvent, ça part du fait qu'il y a des personnes... Soit c'est des parents qui, bon, comme toi et moi, on est nés, toi, t'es né sans ton bras, moi, sans ta main, moi, sans mon bras ni ma jambe. Mais donc, ça arrive à d'autres parents encore aujourd'hui, évidemment. Et les parents, autant que les jeunes, se posent 36 000 questions tout le temps. Toi, comment ça s'est passé, le début de ton histoire avec ça? Comment tu le racontes?
Bien, il faut remonter dans l'histoire. Moi, je suis née en 1978. Les échographies, à ce moment-là, n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Fait que pour mes parents, quand je leur ai demandé, pour eux autres, ça a été une surprise à la naissance. Ils s'en sont pas rendus compte avant. Mm-hmm. Puis même le médecin, il a été surpris de voir qu'il me manquait un bout. Fait que là, ils ont eu bien peur, ils m'ont hospitalisé, mais finalement, j'ai rien d'autre que juste pas de main gauche.
À quoi ressemble, parce que je trouve que c'est important d'en parler, est-ce que c'est un moignon? Est-ce que tu as déjà un peu des doigts ou...
J'ai aucun doigt long, mais j'ai une petite bosse de gras qui est mon pouce. Moi, j'ai l'articulation du poignet, mais je dirais que mon bras gauche, mon bras amputé, ressemble à un bras d'une fiancée pour la grosseur là, d'environ 4-5 ans, puis qu'il n'y a pas de main au bout. Là. C'est comme un point. Fait que c'est vraiment rond. Fait que ça me permet, le fait d'avoir un bras gauche un petit peu plus court, de porter des membres artificiels pour pouvoir m'aider là, dans différentes tâches. Puis malheureusement, au fil des années que je vieillis, mon bras, où ce qu'il y a mes doigts, mon bras droit, mon bras sain, souffre de douleur. Et ça, c'est ce qui m'handicape le plus. Moi, c'est rare que j'utilise le mot handicapé parce que je me trouve pas handicapée. Je peux faire tout ce que je veux. Mm-hmm. Depuis que j'ai développé des douleurs dans mon bras droit, là, Camille, je dois dire qu'il y a des matins là, que je peux même pas attacher mes cheveux tellement que mon bras me fait souffrir.
Aïe, aïe, aïe.
Quand j'étais jeune, tu sais, j'avais des plus vieux, des mentors auprès de l'association qui me disaient « Faites attention au bras complet que vous avez parce qu'un jour, peut-être, vous allez souffrir de la douleur. » Ça me rentrait dans une oreille, ça me sortait de l'autre, puis je me disais « Ben non, voyons, moi, je suis une athlète, je nageais, je suis en forme. » Ça m'arrivera pas. Et depuis que j'ai 38 ans, je souffre de douleurs. Fait que maintenant, c'est à moi à dire aux autres de faire attention que ce qu'on me dit, c'est pas juste du blabla, c'est réel. Ça peut arriver.
Merci de prendre le temps de nous le dire. Et je dois t'avouer et vous avouer, chers auditeurs, que je sais pas s'il y en a qui nous écoutent d'ailleurs, qui... à qui leur manque un membre ou un bras. Mais moi, j'ai envie de dire que je ne veux pas que ça me rentre d'une oreille et que ça me sorte d'une autre. J'écoute attentivement ce que tu me dis parce qu'on dirait qu'on, malgré notre handicap, malgré ce qui nous manque, comme tu le dis, on a vécu notre vie sans se poser de questions, en allant à 100 000 à l'heure, en faisant, comme tu l'as dit aussi, tout ce qu'on veut ou presque, à quelques exceptions près. On a un peu cette sensation de... Est-ce que tu t'es senti un peu comme... Pas une super-héros, mais quand on dit de sentir tout-puissant, invincible, ça change.
Tout à fait. Puis encore aujourd'hui, là, tu sais, pour moi, c'est tout un coup de massue de dire que je peux pas laver mes cheveux, faut que la coiffeuse me les lave. Je me sens, tu sais, comme ma force, cette sensation d'être invincible, de pouvoir tout accomplir malgré que j'ai juste une main. Ben là, je viens de frapper le mur, là. Fait que c'est de réapprendre à vivre avec des nouvelles limites que j'ai pas nécessairement le goût d'écouter, mais que j'ai pas le choix. Je le souhaite à personne, ces douleurs-là, mais il faut se dire que quand il nous manque un bout, ben l'autre membre complet travaille 100% du temps au lieu de travailler à 50% du temps.
D'où le terme surutilisation.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Puis tu nous parles de tes cheveux, est-ce que j'imagine que c'est quoi les autres mouvements dans ton quotidien dans lesquels tu vas te sentir un peu plus brimé?
Faut que je dise adieu à une maison propre. Faire le ménage, c'est quelque chose que je dois extensionner sur plusieurs jours. Fait que tu sais, la journée où, que, par exemple, je fais la salle de bain, ben je pourrais pas vider le lave-vaisselle. Je pourrais pas nettoyer les comptoirs. Je pourrais pas passer le balai ou la balayeuse. Fait que, il faut que j'accepte que c'est pas propre chez nous comme je le désirais. Mais tu sais, Camille, ce qu'on m'a toujours appris là, quand j'ai eu des enfants, là, parce que ma fille maintenant elle a 16 ans, fait que, là, 16 ans, on m'a appris que si c'est pas dangereux pour la sécurité, ben je peux peut-être passer à côté puis revenir plus tard. Fait que ça a été un apprentissage de laisser aller le ménage, laisser aller que je peux pas laver mes cheveux, laisser aller que je suis pas capable d'amener l'épicerie chez nous parce que je suis au troisième étage. Le laisser aller, là, faut apprendre à le maîtriser, malheureusement. Dans mon cas, le fait qu'il me manque une main et que j'ai une surutilisation de mon bras sain, ça me permet pas d'accomplir tout ce que je veux quand je le veux.
Donc, il faut faire des choix.
Exactement. C'est des choix difficiles au début, mais mettons que j'apprends à vivre avec parce que je ne supporte pas la douleur. Fait que c'est une journée où ce que j'ai mal, là, je suis pas de bonne humeur.
Mais tu fais quoi d'ailleurs pour est-ce que tu prends des médicaments, quelque chose pour te soulager simplement?
Ben là, ça fait déjà 2 ans et demi que je suis sur un traitement intensif où que je vais en physiothérapie. Au début, j'y allais plus souvent, là, mais maintenant, c'est stabilisé là, à une fois par mois. Mais j'alterne avec des traitements en massothérapie à une fois par mois. Fait que j'ai des traitements d'un professionnel de la santé aux 2 semaines mm-hmm. et je prends de la médication en plus. Okay. Là, on est rendu que avant les fêtes, il a fallu augmenter ma médication parce que là, mon corps s'était habitué. Puis, si je refuse de prendre la médication, ben il faut m'opérer. Mais il faut opérer mon bras qui a une main ou ce qu'il n'y en a pas d'autre. Fait que je suis pas rendue à me faire opérer. J'accepte de prendre la médication qui me permet de réduire la douleur. Je suis chanceuse, là. Là, je suis capable de réduire la douleur là, presque à 98%.
OK, quand même.
Oui, mais il faut que je fasse attention parce que quand j'ai pas mal, là, je veux faire tout le ménage, je veux faire tout ce que je... Mais je peux pas faire ça parce que sinon, dans les jours qui suivent, je souffre.
Mais donc, tu en payes le prix. Toi, c'est une notion très importante, je trouve, quand on parle du handicap, l'adaptation. On disait qu'on avait un des choix à faire, mais deux, comme tu dis, selon le choix, si on a fait le bon choix ou pas, on peut en payer le prix. Donc,
tout à fait.
Il y a une notion du prix, d'une valeur. C'est la valeur, en fait, c'est notre bien-être, on s'entend.
Exactement. Puis je suis chanceuse. Ben là, moi, je suis séparée du père de mes enfants, mais j'ai mon garçon qui a 12 ans, une semaine sur deux. Fait que j'en profite cette semaine-là. Hein. C'est lui qui me monte la litière pour mes animaux. C'est lui qui me monte mes sacs d'épicerie. C'est mes bras.
Très intéressant. Tu sais quoi, tu parles de tes enfants, de la famille. Tes enfants t'ont fait découvrir une chanson. On va aller l'écouter tout de suite et tu nous en parles après.
T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey! Y'a l'air de faire frais. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Si dehors il fait beau, mais que ça a pas l'air chaud chaud, je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner, je lui demande comme si c'était mon bon body. J'ai dit, hey, fais-tu frette? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire frette. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en vie, un col roulé, bardeur ou froc doublé. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Un pantacourt ou un pantalon? Grosse combine ou ben bas de nylon? Une bonne paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales? On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites hey! Faites fret! On est-tu bien juste en coton ouaté? Y'a l'air de faire frette, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, fais-tu frette? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire frette, t'es-tu bien dans ton coton ouaté?
On l'a reconnu cette chanson, non? Et oui!
Tout à fait, on s'en passe pas!
Exactement, c'était Coton Ouaté du groupe Bleu Jeans Bleu. Isabelle, c'est une chanson que tu as connue grâce à tes enfants?
Exactement. Quand j'ai commencé à pratiquer de plus en plus le laisser-aller sur mes, sur mes différentes tâches quotidiennes, c'est mes enfants qui écoutaient ce groupe de musique-là, puis qui m'ont fait écouter cette chanson-là. Puis ça m'a tellement fait ressentir que quand on est en mou, quand on est en coton ouetté, on relaxe, on prend du temps, ben il faut que j'applique ça souvent.
J'adore à quel point tu as utilisé, mais d'une bonne façon, cette chanson pour, encore une fois, rajouter, on va dire, une coche à ton confort.
Tout à fait.
Là, on a parlé un peu, bon, des choses qui étaient moins avantageuses ou des difficultés, bon, du fait d'avoir une main en moins. Mais est-ce qu'il y a des moments où, à l'inverse, ton handicap a été un avantage?
Bien, moi, j'ai jamais utilisé mon handicap comme un avantage. Ça fait partie de moi. Je vais m'utiliser en entier pour me vendre, pour faire valoir de moi. C'est sûr que quand je faisais de la natation, moi, j'ai fait de la compétition longtemps. Puis, je nageais avec des personnes qui avaient juste deux mains. Fait que j'ai utilisé un membre artificiel qui m'a aidé à nager aussi vite que tout le monde pour avoir deux mains. Puis à un moment donné, ils sont venus me recruter parce que j'étais bonne.
Disons-le.
Ils m'ont recruté pour participer aux Paralympiques, pour faire partie de l'équipe de natation paralympique. Puis c'est venu me toucher, j'étais super heureuse. Mais par la suite, j'y ai pensé. Moi, là, je travaillais super fort avec ma prothèse pour battre tous ceux qui avaient tous leurs membres. Mm-hmm. Puis allô, Paralympique, je sais que tu pratiques un sport, j'ai d'autres amis qui ont fait les Paralympiques, c'est génial comme compétition, mais ça venait pas me chercher comme valorisant. Okay. Pour moi, c'était comme régresser, dire que, OK, je suis amputée, fait que là, je vais nager avec des personnes qui ont une limitation similaire à la mienne. Peut-être que je vais être bonne, peut-être que je serai pas bonne. Fait que j'ai préféré continuer à nager avec les, je vais dire, les normaux, là, les complets. Puis, faut croire qu'en quelque part, c'est mon étoile, elle devait pas être là. Cette année-là, je me suis blessée gravement, puis il a fallu que j'arrête de nager. Fait que ça a fait comme, OK, j'aurais peut-être dû, mais utiliser mon handicap pour aller aux Paralympiques. Puis finalement, ben, les années ont passé, puis j'ai juste pas retourné dans la piscine.
Bon, ben c'est, je veux dire, les choses se font d'elles-mêmes et se défont d'elles-mêmes aussi. Donc, comme tu dis, tout est parfait hein, dans un sens.
Exactement, oui. Mais c'est sûr aussi, mon handicap, tu sais, le fait qu'il me manque une main fait en sorte que je fais mon travail aujourd'hui aux entités de guerre. C'est important pour eux que mon poste soit une personne amputée parce que je sensibilise les enfants à la différence, mais aussi à la prudence. Fait que c'est important. Tu sais, mon handicap fait partie de moi, comme j'ai dit, mais fait aussi partie de mon travail.
Et donc, ça, c'est clairement un avantage. Puis, est-ce que tu peux nous parler rapidement du programme Jouer prudemment? Parce que tu en es la coordonnatrice. Qu'est-ce que tu fais précisément?
Bien, dans le fond, le programme Jouer prudemment a été créé après avoir remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui perdaient un pied ou un bras à la suite d'accidents qui arrivaient à la maison. Fait qu'on crée ce programme-là, fait qu'on va dans les écoles à la demande d'enseignants ou dans les services de garde à la demande d'éducatrices pour sensibiliser les jeunes de tous les âges à la prudence au jeu. Comme je suis une personne amputée, j'en profite pour parler de la différence de mon vécu. J'amène mes prothèses, fait que les enfants, ils ont beaucoup, beaucoup de questions. Mais à la base, c'est sensibiliser les enfants à la prudence au jeu. Savais-tu, Camille, la machine qui cause le plus d'accidents chez les enfants encore aujourd'hui, c'est la tondeuse à gazon.
C'est incroyable. Ça m'en donne des frissons encore que tu m'en parles, alors que moi aussi, je fais partie de l'association depuis que j'ai un an. J'en entends parler depuis ce temps-là, mais le fait que c'est triste à dire que cette fameuse machine, cette tondeuse à gazon, soit en tête de liste. En fait, on espérait qu'il n'y ait pas de liste du tout, mais non, ça en donne des frissons.
Tout à fait. Mais tu sais, en étant parent, puis en ayant une maison, j'ai compris un peu pourquoi. On l'utilise très souvent, presque une fois par semaine durant la période estivale, On oublie que c'est dangereux.
C'est vrai.
Il fait beau, on veut que les enfants ils jouent dehors, mais il faut couper le gazon. On oublie que les enfants sont dehors. Un accident, ça prend une seule seconde à arriver. Hein.
Oui.
Fait que, oui, c'est plate que ce soit cette machine-là, mais aujourd'hui, en tant que parent, je comprends pourquoi c'est celle-là. Parce qu'on en a tous ou presque une à la maison.
Mm-hmm. Et même si on pousse ça loin, hein, c'est pas parce que même si on n'en a pas à la maison, un enfant n'est pas à l'abri d'une tondeuse à gazon, point à la ligne.
Exactement, tout à fait. Puis je dis aux enfants quand je vais les voir à l'école là, que c'est important d'écouter les consignes des parents. Que les consignes, là, c'est pas pour les leur rendre tristes, c'est pas pour être esclaves, c'est pour leur sécurité parce qu'on les aime. Mm. Fait que c'est important d'écouter les consignes, puis chaque maisonnée a ses propres consignes établies. Puis je pense que pour tous les parents, c'est important d'instaurer des consignes claires pour ses enfants.
Magnifique. Et ceux qui nous entendent, qui voudraient justement faire appel à toi, à tes formations, tes présentations, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
Bien, dans le fond, c'est simple. On peut aller prendre mon numéro de téléphone sur le site web de l'association. L'adresse, c'est amputedeguerre.ca. À noter que amputé, c'est ES. Deguerre.ca. Et dans la section Jouer prudemment, ils vont trouver mon numéro de téléphone qui est le 514-398-0494. Et ils peuvent communiquer avec moi là, pour commander des ressources pédagogiques pour animer eux-mêmes une activité de sensibilisation ou communiquer avec moi pour aller dans les écoles, les services de garde, les camps de jour, les groupes scouts. Quand la vie va reprendre là, à la normale, là, je me dépasse, mais présentement, on le fait de façon virtuelle, donc c'est quand même possible de rejoindre les enfants.
Très bien. Puis aussi, j'en profite pour nommer que encore une fois, l'Association des amputés de guerre offre énormément de programmes. On parle de celui de Jouer prudemment en ce moment, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, encore une fois, sur le site amputedeguerre.ca, tout le monde peut retrouver toutes les informations nécessaires. Et si on change un petit peu de registre, j'aimerais que tu me parles de tes passions, parce que tu es vraiment une femme passionnée. Ça s'entend, ça sent, mais j'aimerais en découvrir plus sur toi.
Moi, Camille, ma plus grande passion, c'est d'aider les autres.
Mm.
Je le fais dans mon travail, je le fais dans mon quotidien, je le fais le plus que je peux, c'est ce qui m'allume. Puis présentement, je vous dirais que je donne pas juste aux humains, je donne aussi aux animaux.
Mm.
Je suis famille d'accueil pour la SPCA de ma région. Fait que j'héberge, moi j'aime mieux les animaux exotiques. Fait que j'héberge des lapins à la maison le temps qu'ils sont adoptés.
Mm.
Fait que pour moi, c'est un don de soi qui est différent, qui n'est pas relié du tout à mon handicap, à mon amputation.
C'est vrai.
Pardon, à mon amputation. Mm. Ça me permet de donner de moi. Fait que puis j'ai plein de. Ben, tu sais, j'en ai un à la fois, mais je change vraiment souvent de lapin. Fait que c'est toujours intéressant à la fois, mais c'est ça. Moi, ma passion, c'est donner de moi. Donner le sourire à l'autre, aider l'autre m'amène une très grande joie.
Mmh, c'est beau t'entendre, Isabelle.
Merci.
Puis tu fais d'autres choses aussi? Tu fais de la méditation?
Ah oui, ça. Ben, ça réduit un peu ma douleur, hein. C'est drôle. Au début, quand les gens me disent ben, « Pourquoi tu médites pas? » Ça va te permettre, un, d'avoir du temps pour toi-même, mais ça réduit ma douleur aussi. Fait que depuis, moi, je prends pas de résolution, Camille, parce que je sais que je les tiens pas.
Mais pas mal, ça!
Je vous dirais que ça l'a médité, ben, tu sais, ça l'a mijoté dans ma tête en la fin de l'année 2020, puis depuis le début de l'année, là, je le fais de façon quotidienne, puis ça me permet de me ressourcer pour mieux me donner par la suite. C'est important de prendre du temps pour soi, de prendre du temps de qualité pour soi, pour avoir une passion comme la mienne qui est d'aider les autres.
Ça fait du bien. On dirait qu'on a eu, on dirait que tu nous as, la façon dont tu nous parles, c'est une forme de méditation justement. Donc, merci de nous donner ça. Puis la méditation, bon, c'est un univers, mais il y a en plus l'univers des images, du dessin aussi, dans lequel tu vas encore te faire du bien d'une certaine façon.
Ben oui, mais tu sais, moi, ma mère, c'est c'est une artiste en soi. Okay. Elle créait ses vêtements, après ça, s'est mis à la peinture. Puis c'est elle qui m'a donné un petit peu le goût de dessin, de du côté artistique. Je dis pas que j'ai beaucoup de talent, là, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, faire des dessins. Moi, je vais mettre de la couleur à un dessin. Mm. Comme là, ça va m'aider aussi à extérioriser les émotions que je vis lorsque je fais cette activité-là. Parce qu'il y a des dessins où je vais utiliser des couleurs plus sombres, des couleurs plus vives. Puis, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que je peux le transporter n'importe où. Donc, quand je pars en vacances ou quand souvent on se déplaçait dans différentes villes pour des activités avec les amputés de guerre, fait que je l'amène avec moi, fait que je peux en faire partout, c'est très volatile.
Magnifique. Tu as un message important à passer au niveau de l'intimidation.
Oui, tout à fait. Tu sais, une partie de mon travail est de rencontrer les élèves dans les écoles, puis je me rends compte que les enfants sont encore victimes d'intimidation, même s'ils ne sont pas handicapés. Moi, je l'ai été étant plus jeune. Je n'ai pas utilisé la bonne façon pour m'en sortir. Moi, j'ai utilisé la violence, Camille, à ne pas faire, s'il vous plaît. J'ai eu les conséquences nécessaires qui sont allées avec, mais il a fallu que je me rende jusque-là pour pouvoir faire comprendre ce que je vivais. Parce que ça me créait beaucoup de tristesse à l'intérieur de moi. Quand je vais rencontrer les élèves dans les écoles, là, je leur parle de mon passage à l'école, que ça n'a pas toujours été facile, ou ce que je pleurais souvent parce que j'étais tannée. Puis que je veux pas que ça leur arrive, parce que malheureusement, ça existe encore aujourd'hui, l'intimidation dans les milieux. Dans tous les milieux, là, mais aussi à l'école. Et le dessin a été une porte de sortie où que quand j'ai fait mes retenues, il y a une enseignante qui m'avait pris comme sous son aile puis qui m'avait dit, il n'y a pas juste les mots qui permettent de communiquer nos émotions, nos problèmes que l'on vit, il y a aussi le dessin. Mm. Et c'est là que je transmets ça aussi aux élèves que il y a d'autres façons de communiquer. Ça peut être d'écrire plein de mots. Ça peut être de faire des gribouillis. Ça peut être de faire des collages. Mais c'est important de parler des émotions et surtout de l'intimidation, de ne pas garder ça à l'intérieur de nous parce que ça reste marqué profondément longtemps.
Ben, Isabelle, c'est le mot de la fin, mais merci infiniment de nous avoir partagé ton expérience, ta sensibilité. Ça va rester entre nos deux oreilles, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Merci infiniment. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Samuel Larouche.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, Camille Chaille, je suis avec vous et toujours en bonne compagnie pour cette deuxième partie d'émission. J'ai le plaisir de recevoir Samuel Larouche qui a 27 ans. Il habite à Jonquière. Il est entre autres athlète en course en fauteuil roulant. Bonjour Samuel.
Bonjour Camille.
Alors Samuel, ça me fait plaisir de te parler. Parce que je suis en fait contente d'un, de te rencontrer, mais de deux, que les gens puissent aussi apprendre à te connaître, parce que tu as toute une histoire et tu as tout un parcours. En fait, la course n'a pas toujours été ton premier sport de prédilection.
Effectivement. Donc, la course, je l'ai un peu découvert par la force des choses, oui. Parce qu'initialement, c'était pas nécessairement ce que je faisais ou ce que je voyais que je ferais dans le futur. Mm. Donc, effectivement, c'est le cours des choses qui m'a amené vers ce sport-là.
Si on remonte dans le temps, ça a commencé par quoi?
Bien, d'abord, là, mettons qu'on fait vraiment mon historique. Moi, j'ai commencé en tant que gymnaste. Donc, j'ai fait de la gymnastique artistique masculine pendant 13 ans. À l'époque, j'ai fait là, de la compétition au niveau national. Et puis, j'ai pris ma retraite du sport dans le coin de 20 ans parce que j'allais poursuivre des études universitaires à Sherbrooke. Et puis, je continuais quand même là à m'entraîner parce que, écoute, la passion d'un sport, ça demeure.
Hein? Oui.
Alors, je m'entraînais pour le plaisir. Puis, c'est pendant un entraînement que j'ai fait une mauvaise chute. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu une fracture au niveau d'une vertèbre de mon cou. Et ça l'a fait une lésion au niveau de ma moelle épinière. Alors, je suis devenu à ce moment-là tétraplégique. Et ben écoute, l'amour du sport, le besoin de se dépasser, de bouger, était toujours là. Et c'est ainsi que j'ai découvert en fait le para-athlétisme, mm-hmm. puis plus particulièrement là, la course en fauteuil roulant.
Il y a tellement de choses qui me viennent en tête. D'abord, j'aimerais que tu nous expliques, parce qu'on entend bon, souvent parler de paraplégie ou de quadraplégie. Où se situe la tétraplégie là-dedans?
Ben, en fait, la tétraplégie, c'est grosso modo un synonyme de quadraplégie.
Okay.
Donc, on va retrouver ça, surtout quand on a une lésion au niveau d'une vertèbre du cou, donc une atteinte au niveau de la moelle épinière dans le cou. Puis c'est là qu'on va avoir la tétraplégie ou la quadraplégie, puisque nos quatre membres vont avoir un déficit moteur ou sensitif.
Donc, inévitablement, tu es en fauteuil roulant?
Oui, parce que moi, ma lésion, elle est complète. Donc, ma moelle épinière, elle est sectionnée au complet. Parce que j'aurais pu avoir certaines parties de la moelle épinière qui auraient pu être intactes, mais mm-hmm. dans mon cas, l'atteinte est complète, ce qui fait en sorte que tout ce qui se retrouve là en bas de l'endroit où est-ce que la moelle épinière a été atteinte, ben c'est paralysé au complet.
Je pense que j'ai vu des vidéos de toi. Tu peux un petit peu bouger tes bras malgré tout?
Ben, effectivement, dans le fond, la tétraplégie, c'est pas que nos quatre membres sont totalement paralysés, c'est qu'on a une atteinte au niveau des quatre membres. Donc je peux bouger mes bras, sauf qu'il y a plusieurs parties de mes bras qui sont paralysées, dont entre autres mes mains,
mm-hmm.
Ce qui fait en sorte que ça complexifie là, mon quotidien.
Oui, j'en doute pas, c'est le cas de le dire. J'aimerais que tu nous en parles d'ailleurs, parce que je veux qu'on soit sensibilisé et que les gens sachent vraiment à quel point, ben, quel impact ça a dans ta vie au quotidien. Parce que bon, quand tu dis oui, la passion du sport est là malgré l'accident que tu as eu, j'imagine qu'au début, bon, tu devais t'ennuyer de faire plein de choses, que toutes les choses que ton corps te permettait au niveau de la liberté de mouvement. Comment ça s'est passé pour toi, cette transition entre l'athlète qui était ultra performant au jeune homme qui devient handicapé tout d'un coup? Ça s'est passé comment pour toi?
Bien, c'est sûr que la transition, là, sur le coup, elle se fait, on va dire, difficilement, parce que on a la conception de qui on est, puis de c'est quoi nos passions, c'est quoi nos intérêts. Et puis là, d'un moment à l'autre, l'identité est changée. On, tu sais, sur le coup, on connaît pas, on sait pas qu'est-ce qui nous attend, on sait pas qu'est-ce que la vie nous offrira. Donc, nécessairement, notre identité est très, très, très chamboulée. Fait qu'au début, écoute, c'était, bon, je pourrais plus jamais faire mon sport, être libre, etc. Mais c'est pas très long qu'on se rend compte que finalement, c'est pas tant ces aspects-là qui vont avoir un impact, on va dire, au niveau de notre, comment je peux dire ça, au niveau psychologique, là, c'est beaucoup plus toutes les petites choses de la vie quotidienne qui sont devenues plus complexes. Puis là, je parlais de mes mains qui sont paralysées. T'sais, dans mon cas, vu que je peux plus les bouger du tout, ben juste manipuler un crayon, manipuler des ustensiles, boutonner quelque chose, ramasser quelque chose par terre, c'est toutes des choses qui deviennent vraiment défis, comme je pourrais dire. Donc là, c'est vraiment toutes les petites choses banales de la vie quotidienne qui deviennent peut-être plus quasiment une montagne. Mmh. Fait que c'est ça là qui devient là vraiment plus c'est au-delà de dire qu'on peut plus marcher ou qu'on pourra plus faire des acrobaties. On voudrait tellement juste revenir à la facilité. Là.
Mmh.
C'est plus là qu'il y a cet effet-là.
Oui, puis je trouve ça beau que tu te permettes de nommer ces choses-là, parce que c'est simple, ça paraît banal, mais ça nous prouve à quel point toutes ces sensations et ces petits gestes du quotidien qu'on a l'habitude de faire et qu'on prend pour acquis, il faut en profiter de cette capacité-là.
Ben, il faut en profiter, mais tu sais, d'un autre côté aussi, comment que je peux dire ça, on vit les événements qu'on a à vivre,
mm-hmm.
donc tu sais, c'est... Le corps est tellement bien fait hein, que tout fonctionne en théorie normalement.
Mm.
Puis on veut juste avoir un mal à quelque part, là, peu importe pour quelle raison. Ben quand on a pas mal, on se rend pas compte que, mettons, notre bras, il est dans toutes les activités de la vie quotidienne. Puis c'est au moment où est-ce que hop, on a tout inconfort qu'on se rend compte que finalement, il fait des affaires dans une journée parce que je me rends compte qu'il me fait mal bien souvent dans ma journée parce que je l'utilise. Hein. Mm-hmm. Fait que c'est un peu un parallèle qu'on peut faire.
Mais est-ce que cette notion et cette attention que tu portes aux choses de la vie, ça t'a un petit peu influencé dans le choix de tes études?
Oui et non. Ben écoute, moi, avant, là, j'ai étudié en réadaptation. Donc, j'aime bien dire que je suis passé du théorique à la pratique parce que avant que j'aie cet accident-là, j'étais de l'autre côté. Donc, j'étais du côté médical, j'étais du côté de la personne qui soigne, parce que j'étais thérapeute en réadaptation, puis je faisais des études en ergothérapie. Alors, mon quotidien, c'était ça, en fait, c'est d'être en réadaptation, de travailler avec des gens qui vivaient le genre de défi que maintenant je vis. Et j'ai toujours été passionné de sport aussi. Donc, en raison de ma condition, bien évidemment, c'était un peu plus complexe de terminer mes études en ergothérapie pour devenir ergothérapeute. C'est pour ça que je me suis réorienté en kinésiologie. Ça rejoint sensiblement encore mes champs d'intérêt. C'est sûr que je dirais que tatoué sur mon cœur, il y a la réadaptation, là, c'est vraiment ma passion. Sauf que je réussis quand même très bien à me développer puis à rejoindre d'autres valeurs puis d'autres passions qui me sont proches par la kinésiologie. Donc, c'est un petit peu comme ça que je me suis réorienté professionnellement.
Et quel est ton message, parce que tu as un but professionnel, mais toi, personnellement, Samuel, qu'est-ce qui te tient absolument à cœur à transmettre aux autres?
Bien, par rapport à ce volet-là, bien, écoutez, c'est sûr que pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas la kinésiologie, en fait, un kinésiologue, c'est un spécialiste, un professionnel de la santé qui est spécialisé en termes de pratique de l'activité physique et des saines habitudes de vie. Donc, notre rôle, en fait, c'est de promouvoir la santé, promouvoir les bonnes habitudes de vie et promouvoir la pratique d'activité physique. Donc, ce que je constate, en fait, maintenant, en étant un petit peu plus proche de la communauté, donc des gens qui ont des limitations, qui ont des déficiences de toutes sortes, bien, la pratique d'activité physique, c'est quand même quelque chose qu'on peut constater qui n'est pas trop inclusive. Hein? On se surprend de voir des gens qui vont être justement des athlètes qui ont des limitations. On se surprend aussi de voir les gens qui ont des limitations dans des centres de conditionnement physique, etc. Alors, tu sais, mon message, c'est de démontrer, en fait, que pour nous, faire activité physique, être en bonne santé, c'est primordial parce que ça nous donne une espèce d'autre côté de notre situation. Hein. Mm-hmm. Quand on s'entraîne, on acquiert des compétences, on acquiert des capacités. Et là, notre rapport à notre corps, notre rapport à notre handicap ou à nos limitations change parce qu'on est dans le gain, on est dans le positif. Fait que c'est un peu le message que je veux amener par mon professionnalisme, là, donc mon aspect professionnel en tant que kinésiologue, puis aussi en étant moi-même athlète, donc en montrant un peu l'exemple.
C'est incroyable parce qu'en t'écoutant, on se dit à faire du sport, à bouger, à adopter des saines habitudes de vie, on gagne. On fait que gagner.
Absolument. On ne fait que gagner. Puis d'un autre côté, ben c'est notre rapport. Parce que peut-être que certaines activités comme nos transferts pour les personnes qui ont besoin de faire des transferts, puisque c'est comme moi, ben puisque le bas de mon corps ne fonctionne pas, je dois accomplir des transferts, donc me lever mon corps avec mes bras.
Oui.
Ben, c'est sûr que si je suis pas en santé physique, ben j'ai un surplus de poids, mes muscles ne sont pas vraiment stimulés, ben faire des activités comme ça, des transferts, ça devient une charge physique puis complexe dans mon quotidien. Alors que si je suis en bonne forme physique, ben puis j'ai perdu du poids, ben ça me permet de gagner un certain degré d'autonomie à quelque part. Donc psychologiquement ça a des effets, physiquement ça a des effets, au niveau de notre autonomie ça a des effets. Alors c'est d'amener un peu cette réalisation-là de tous les bienfaits que ça va apporter d'avoir ces habitudes de vie.
Et parlant de choses qui nous apportent quelque chose et qui nous fait du bien, je vous propose qu'on passe à la pause musicale. C'est un choix. C'est ton choix musical, Samuel. Donc, allons l'écouter et tu nous diras ce que cette chanson t'inspire après.
Parfait. À tout de suite.
Get back up, I promise you, promise you. When I get back up, down for the last time. Is there anybody else out there feeling like I'm feeling? Maybe life's not fair. Hard times and it's not right. I got knocked down, but I'm just fine. If there's anybody else out there feeling like I'm feeling, let it go. When I get back. I'm always down for the upside. Is there anybody else out there feeling like I'm feeling? Maybe life's not fair. Tough times, it's a good fight. I live my life with a black eye. If there's anybody else out there feeling like I'm feeling, let it go. When I get back up,
c'était la chanson « Get Back Up » de Emma Rosa. Samuel Larouche, c'est une chanson que tu as choisie. Pourquoi?
Écoute, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire un choix final. j'aime beaucoup la musique. C'est quand même quelque chose qui on va dire, une autre passion. Donc, ça a été quand même compliqué de trouver une chanson. Écoute, cette chanson-là, par le titre, en parle, hein, « Get Back Up ». Autant je pense par les défis que j'ai pu vivre par rapport à mon histoire, mais tu sais, je pense que au final on a toujours comment je pourrais dire ça dans la vie on a des défis, on a des trucs qui s'opposent à nous, puis au final c'est tout le temps notre façon de trouver des solutions puis notre façon de, on va dire, de se relever, donc get back up, qui témoigne de notre résilience et qui nous amène ailleurs. Alors, je trouvais que par rapport à l'entrevue, au contexte, c'était une chanson de circonstances.
Tout à fait. T'as bien raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Puis ça nous amène même... J'ai envie qu'on découvre quel type d'athlète tu es.
Oui.
Parce que j'aime bien, en fait, tu parles de choses très subtiles, mais il y a beaucoup de nuances dans... le rapport à notre corps, le rapport au handicap. T'as beau avoir perdu ta liberté de mouvement, et on peut dire que t'as eu une vie avant et une vie après, mais ça c'est loin de s'arrêter là seulement. Donc, on a beaucoup à apprendre de ton attitude et de ton parcours, de ton expérience. Je me demandais à quel point est-ce que tu fais confiance en ton corps et en ses capacités, autant dans le sport que dans la vie, dans ta vie après, une fois que tu vas arrêter de faire du sport?
Ben c'est un petit peu, c'est sûr que c'est un peu un défi, hein, que j'ai vécu et que je sens que j'aurai toujours. On parlait de avant l'événement, mon corps c'était, on va dire, mon outil principal, parce qu'en gymnastique, tout repose sur nos capacités physiques. Alors, je passais la majorité de mon temps à développer ces aptitudes physiques-là. Donc, nécessairement à travailler mon corps. Mm. Alors, c'est sûr que mon rapport avec le corps était très, très, très bon, fin, très proche. J'y vouais un culte, entre guillemets. Mm.
Oui.
Maintenant, c'est sûr que là, une fois que j'ai eu l'accident, la paralysie, ben ma vision du corps, elle a dû être transformée. Moi, la vision que j'avais de mon corps, la vision que j'avais de son importance, ben écoute, je ne pouvais plus m'approprier cette vision-là parce que mon corps était rendu différent. Puis ça, encore aujourd'hui, je suis pas en amour avec mon corps, mais j'apprends tranquillement pas vite à le connaître et à l'apprécier. Mais ça, ça va encore changer parce que là, j'ai le corps que j'ai maintenant, je m'entraîne, etc. Mais ça veut pas dire que cette vision-là que j'ai présentement va perdurer dans le temps, puisque tu sais, nécessairement, je suis dans un fauteuil roulant, je gaspille moins d'énergie, donc possiblement que plus tard, quand je m'entraînerai plus, je vais prendre du poids ou quoi que ce soit. Mm. Encore une fois, ce rapport-là au corps va évoluer. Donc, c'est quand même un défi quotidien. Puis par rapport à lui faire confiance, tu sais, c'est sûr que je me rends de plus en plus compte que j'ai des aptitudes et puis que je suis capable de faire des activités justement avec l'entraînement, etc., qui m'amène à me dire, ben finalement, je suis pas tant hypothéqué que ça, mais reste quand même qu'il y a des moments où est-ce que t'es vraiment confronté à dire, ouais, effectivement, il y a une limite, puis là, je crois que je l'ai atteinte.
Il y a une sagesse, puis quand on a parlé de la résilience, mais de l'adaptation, il y a une adaptation qui se fait physique, mais surtout mentale, hein, je dirais.
Ben ça passe par le mental, hein, parce qu'en fait, tant qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est quoi nos limites ou c'est quoi nos forces, c'est quand même difficile après ça là, de poursuivre ou de se lancer dans des projets. Là,
et parlant de projets, comment tu vis en ce moment ton parcours, ta carrière d'athlète dans les circonstances de la pandémie? Tu continues de t'entraîner malgré tout?
C'est un contexte et une situation qui est assez particulière.
Oui.
Moi, dans mon cas, j'ai quand même besoin d'une certaine assistance pour m'entraîner. Donc, il y a eu des bons défis, là, surtout au niveau du début du confinement et de la pandémie, où est-ce que là, j'étais vraiment isolé pour éviter là, toute contraction du virus. Donc, c'est ça. Mais là, tranquillement, pas vite, j'ai pu réintégrer le sport, mais on avait plusieurs événements, entre autres l'été dernier, là, pour se classer pour les Jeux paralympiques, qui ont été annulés, des compétitions internationales, etc. Alors, c'est quand même un peu difficile de garder, pas la motivation, mais plutôt de garder un objectif, puis de travailler en ce sens-là, vu que j'ai pas eu de compétition, donc j'ai plus de comparatif.
Oui.
Je sais pas où est-ce que je me situe dans mes capacités, etc. Alors, c'est ça. Je dirais que c'est le principal défi par rapport à l'entraînement puis par rapport à voir là, dans le futur où est-ce qu'on s'en va.
Est-ce que tu te concentres quand même un peu sur les Jeux de Tokyo à l'été 2021 ou tu vois un peu plus loin en 2024? Ça paraît tellement loin vu ce que tu me racontes en ce moment.
Effectivement, ça paraît très loin. Je suis dans un programme là, national avec Athlétisme Canada où est-ce que on regarde le développement des athlètes et bref, c'est un gros programme. Avec ce programme-là, on vise les Jeux principalement de 2024. Mais moi, personnellement, je m'étais dit que je me fixais comme objectif des Jeux de Tokyo. Mais bon, de fil en aiguille, dans les situations qu'on vit, la pandémie, etc., c'est sûr que, bon, on réfléchit à nos objectifs, on se repose des questions, on remet les choses en perspective, autant pour les Jeux, hein, parce que l'expérience paralympienne va être complètement différente avec le contexte de pandémie, etc.
Ça ressemble à quoi? Ils t'en ont parlé?
On en a parlé un petit peu, mais tu sais, il faut comprendre qu'il n'y aura probablement pas de cérémonie d'ouverture, pas de cérémonie de fermeture. Il n'y aura pas possibilité de probablement quitter le village olympique, mais pas juste le village. Là, on va parler de bulles ou de... donc, ça va être la compétition et on repart à la maison. Donc, ça va être un contexte qui va être très, très, très différent. Contrairement à ce qu'on vivait, là, par ce que je connais et ce que tu connais aussi de l'expérience des Jeux paralympiques.
Effectivement.
Alors, ça, c'est quand même aussi des choses à se poser comme question, puis il va y avoir des risques pour la santé. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut qu'on mette en perspective.
Aïe, aïe, aïe. Je me sens tellement fébrile pour toi. J'ai envie de te souhaiter que ça fonctionne, mais en même temps, si c'est dans ces conditions-là, est-ce que je te le souhaite? Je le sais pas, mais en tout cas, j'ai confiance que tu vas garder le cap de toute façon pour faire ce qui te semble juste et bon pour toi. Et tiens, parlant de bon, est-ce que tu sais si tu es un bon ou un mauvais perdant?
Je suis un très bon perdant.
Très belle dans réponse.
Oui. Dans le sens que finir dernier, moi, ça m'importe peu. C'est plutôt, je suis mauvais perdant envers moi-même. Donc, moi, je me fixe encore une fois, comme je parlais avec les Jeux de Tokyo, l'attente que j'ai des gens autour de moi, de l'agent, des entraîneurs, c'est par exemple 2024. Sauf que personnellement, moi, je vais me fixer des objectifs qui vont souvent être au-delà des attentes. Alors, c'est là où est-ce que je peux être plus mauvais perdant quand je ne réussis pas à atteindre les propres objectifs que je me suis fixés, qui sont généralement assez démesurés. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, finir dernier, moi, ça m'importe peu si, au final, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé.
Est-ce que tu penses que l'expression « se mettre la barre en haute » peut avoir un lien avec les gymnastes, justement? Tu veux toujours aller plus haut et atteindre le sommet?
Ben, écoute, je crois pas que je pratiquais la gymnastique pour... je suis tombé dans la gymnastique parce que la gymnastique, c'est un sport de perfection. C'est un sport où est-ce que la barre, elle est haute. Hein? On veut toujours atteindre le plus haut, mais c'est ça, c'est dans la qualité d'exécution. On est évalué sur le perfectionnement de ce qu'on exécute. Alors, je suis un perfectionniste, je dois l'avouer, puis c'est ça. Ça se poursuit dans toutes les sphères de ma vie.
Eh bien oui, mais puis il y a un beau parallèle à faire avec le para-athlétisme et la course que tu fais maintenant, parce que tu m'avais raconté aussi que là, en course, c'est pas nécessairement la position à laquelle tu termines à la fin de ta course, mais plutôt ton temps personnel.
Oui, bien, quand on fait des compétitions plus, on va dire, provinciales ou même nationales, où est-ce que le bassin d'athlète est plus petit, on va concourir, vu que en athlétisme, il y a 8 corridors dans lesquels on peut faire la compétition. Là. Donc, on peut avoir jusqu'à 8 athlètes en même temps sur la piste. Alors, souvent, on se retrouve à avoir un bassin d'athlètes qui est plus petit. Donc, on peut être 8 sur la ligne de départ, mais on va être 8 athlètes dans des catégories différentes, n'ayant pas nécessairement le même degré d'handicap. Mmh. Ce qui fait en sorte que moi, avec ma condition, je suis dans la catégorie la plus handicapée. Mais je vais concourir contre des personnes qui ont une paraplégie, par exemple, qui ont l'usage complet de leurs membres supérieurs, ce qui fait en sorte qu'ils me battent à plat de couture. Mais au final, c'est pas dans le calcul qui est effectué par la suite, c'est pas dans la position d'arrivée, mais plus par rapport à ton temps qu'il y a le classement pour, après ça, les compétitions en plus internationales. Mmh. Alors, au regard des autres, au niveau du public, je finis peut-être 30 secondes en retard sur les autres. Je fais peut-être un peu pitié, entre guillemets, qu'on peut dire, mais tu sais, au final, je sais que c'est ma performance par rapport à mon temps qui va compter. Alors, moi, au début, ça m'affectait quand même un petit peu, mais maintenant que je le comprends, je suis capable de faire abstraction là, de cet élément-là.
Que c'est beau, c'est un très bel apport, un beau plus au niveau humain. Et de toute façon, le sport, la compétition, ça, on gagne beaucoup à ce niveau-là. Et il nous reste seulement quelques minutes, Samuel. Je tiens à mentionner aussi que, je veux dire, tu es très impressionnant parce que quand tu dis que tu es très perfectionniste et que tu ne veux pas faire les choses à moitié, moi, je trouve que tu... Voilà, on voit très bien que tu veux donner non pas ton 100%, mais ton 200%. Tu es aussi, en plus d'être kinésiologue, tu es aussi étudiant en maîtrise en sciences cliniques et biomédicales à Chicoutimi, au Saguenay.
Oui.
Et il y a une chose que les gens ne savent pas aussi. Tu fais quoi en plus?
Oui, ben la liste est longue. Hein?
C'est ça.
Donc oui, il y a la maîtrise que je fais à l'UQAC. Pareil, également, j'ai un petit travail à temps partiel que je fais. Je suis intervenant formateur en employabilité, spécifiquement là en service spécialisé pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes qui ont des déficiences, donc que ce soit déficiences physiques, intellectuelles, des troubles de santé mentale. Alors, mon but, c'est de les guider, de les accompagner pour les intégrer dans le marché du travail, mais aussi les aider à maintenir leur emploi. Donc, tu sais, moi, je considère que le travail, c'est une sphère qui est super importante dans notre bien-être. Puis, tu sais, on a un but, nous, notre but, c'est d'intégrer la société et d'avoir un rôle social qui correspond à ce qu'on voit chez nos pères qui n'ont pas ces défis-là, que ce soit physique ou intellectuel ou mentaux. Mm-hmm. Alors, je trouve que c'est une très belle mission pour laquelle j'ai décidé de dévouer une certaine partie de mon horaire hebdomadaire.
Chapeau! Et en quelques secondes, si je vais terminer là-dessus, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu choisirais?
Bien, à cette réponse-là, moi, je dirais que j'ai toujours eu ce désir-là de me transposer dans le corps des autres pour voir c'est quoi la réalité des autres, comment qu'ils vivent, et non pas nécessairement pour échapper à mes limitations, là, mais vraiment plus comme curiosité de voir, tu sais, ça se passe comment chez les autres, la vie, comment qu'ils... Bref, je sais pas. J'ai toujours cette curiosité-là.
Voilà, sur cet élan de curiosité, ben écoute, merci infiniment, Samuel Larouche, pour cette belle entrevue. Je te souhaite bonne chance dans tous tes projets. Tu es impressionnant et inspirant, mon cher. Merci infiniment.
Ben écoute, je vous remercie pour cette invitation-là et pour, en fait, cette tribune. Puis, au plaisir, si jamais vous voulez qu'on se recontacte, moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai apprécié cette expérience.
C'est noté. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe.